7h18, les enjeux internationaux. Thierry Garcin, bonjour.
Bonjour Marc Boucher.
Et aujourd'hui, l'Iran, quelle efficacité du nouveau train de sanctions de l'ONU contre Téhéran dans le dossier nucléaire? Votre invité, un fin spécialiste de la question, Bernard Ourcade.
Bonjour Bernard Ourcade.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS. On vous doit donc cette année également un ouvrage intitulé « Géopolitique de l'Iran » chez Armand Collin, leur nouveau train de sanctions décrété la semaine dernière par l'ONU. Est-ce qu'il a quelques chances de modifier la situation? 12 voix au Conseil de sécurité pour, 2 contre, celle de la Turquie et du Brésil, et puis une abstention, celle du Liban. Alors, d'une façon générale et d'une façon générique, même, les sanctions, leur utilité est loin d'être démontrée depuis des décennies. Elles sont souvent réputées inefficaces, contournées, contre-productives. Le cas de l'Iran est intéressant puisque c'est un régime politiquement isolé, ou relativement isolé. Il s'appuie sur un réseau d'alliances faibles et il veut posséder l'arme nucléaire. Alors, votre avis, Bernard Ourcade, donc on ne va pas rappeler le contenu de ces nouvelles sanctions, mais en quoi est-ce qu'elles peuvent atteindre leur but?
Si les sanctions étaient efficaces, Cuba, la Corée du Nord seraient aujourd'hui des grandes démocraties. Sur l'Iran, cela fait 30 ans maintenant que d'une façon ou d'une autre, il y a un embargo ou des sanctions, et le régime n'a jamais été aussi fort, politiquement et en matière de répression, et le programme nucléaire jamais aussi avancé. Donc je pense que ces sanctions, et qui ont été votées, vous l'avez dit, non pas à l'unanimité comme précédemment, mais à la majorité du Conseil de sécurité de l'ONU, ont peut-être un autre but qu'il faut intégrer dans la nouvelle politique d'Obama, qui est évidemment un nouveau problème.
Alors, à votre avis, Bernard Ourcade, est-ce que cela a quelque chance d'affaiblir à terme le régime iranien? Et est-ce que d'ailleurs c'est un objectif facile à atteindre?
Pendant très longtemps, le gouvernement américain pensait qu'il fallait changer le régime iranien, qu'il n'y avait aucune solution, et que même si ce régime n'avait pas d'armes atomiques, il faudrait le changer. Le régime change était l'objectif principal de la politique de Clinton et de la politique de Bush, Bush ayant décidé de passer aux actes, c'est-à-dire éventuellement une action militaire, comme en Irak, pour faire tomber le régime. Ceci, je pense, a changé. Le gouvernement Obama a constaté que cette politique des sanctions et des carottes et du bâton avait échoué. Il fallait faire autre chose, une politique d'ouverture. Il a donc pratiquer cette ouverture politique en voulant serrer la main des Iraniens et en négociant un petit accord sur le nucléaire. Il faut signaler que ces deux objectifs ont été atteints et que ça a été un succès pour Obama. Quelques mois après son discours de Téhéran, les Iraniens étaient dans la rue, encouragés par cet appel d'air, et il a réussi à passer en octobre dernier un petit accord sur le nucléaire qui a été refusé par les Iraniens, mais qui était le premier accord signé par les Iraniens depuis 2003.
Oui, c'est ça. Le président Obama, je crois, comment pourrait-on dire, utilisait cette expression. Il disait il faut tendre la main aux Iraniens dans un respect, mes souvenirs sont un peu lointains, dans un respect mutuel, si mes souvenirs sont.
Il reconnaît la différence, mais il constate que pendant la guerre froide, par exemple, Moscou et Washington avaient des relations diplomatiques, et même s'il avait une politique opposée. Donc aujourd'hui, Obama se rend compte qu'il faut changer de politique, mais il a chez lui des opposants, comme tout gouvernement. Et il y a actuellement aux États-Unis deux politiques iraniennes. L'une, celle du président Obama, qui essaie de continuer sa stratégie d'ouverture en disant « L'Iran est affaibli. L'Iran, pour des raisons d'opposition politique interne en particulier, est obligé et contraint à accepter un certain nombre de concessions. » Et donc, il pousse sur les concessions pour proposer aux Iraniens une sortie de crise. Et d'autres qui disent « Il n'y a pas de solution. Il faut contenir l'Iran, endiguer l'Iran. » C'est la politique du « containment ». Qui était celle de Clinton il y a une dizaine d'années maintenant. Ça consiste à encercler l'Iran en quelque sorte, militairement, d'où l'importance de l'Afghanistan, de l'Irak, mais aussi de la Kirghizie ou du Golfe Persique, et encercler l'Iran économiquement, politiquement, afin qu'on mette un peu l'Iran au congélateur, le temps nécessaire, que le temps passe et que les situations s'arrangent, sachant qu'aujourd'hui l'Iran est considéré par les États-Unis comme un pays ayant une capacité nucléaire, quel que soit le régime.
Alors justement, sur le plan technique, on va dire, ces sanctions, en quoi est-ce qu'elles peuvent freiner, certainement pas arrêter, mais freiner le programme nucléaire militaire iranien, compte tenu du fait qu'un certain nombre d'installations sont dans des établissements civils ou enterrés ou dispersés, etc.
Indépendamment de l'aspect technique, si vous voulez, notamment qui concerne les militaires qui voudraient détruire cet appareil industriel, c'est possible de le détruire et de ralentir la production. Ce qu'il faut voir, c'est que l'Iran est un pays de 75 millions d'habitants, dans lequel les ingénieurs, avec l'aide étrangère, mais maintenant ils ont une capacité autonome, seront capables, quelles que soient les hypothèses, même d'une guerre, et encore pire si c'est une guerre, de fabriquer une arme atomique un jour ou l'autre. Dans un an, deux ans, dix ans, je n'en sais rien, mais cette réalité est un fait. Nous avons tous échoué à empêcher l'Iran d'avoir une capacité nucléaire. Ça ne veut pas dire que l'Iran aura une bombe. Le Japon et l'Allemagne fédérale ont une capacité nucléaire, mais ne franchissent pas le seuil. Mais l'Iran, donc, a cette capacité, il n'y a plus rien à faire. Et même si on bombarde l'Iran, on bombardera l'Iran, ça retardera de 2-3 ans le programme, et ça ne changera strictement rien à cela. Et donc, du point de vue du nucléaire, les sanctions ou autre chose n'ont pas d'efficacité. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'Iran tel qu'il est aujourd'hui, l'Iran pays émergent.
Alors, Bernard Hourcade, justement, il y a une chose intéressante, c'est que concernant cette inéluctabilité donc, de la capacité, comme vous le dites, nucléaire iranienne, c'est le fait que, d'une part, à l'ONU, par exemple, l'ambassadeur français donc, à l'ONU a dit qu'il faut gagner du temps par la diplomatie et qu'à l'inverse, à Téhéran, on joue la montre, c'est-à-dire que chaque jour qui passe est un jour gagné.
Non, côté Téhéran, ce n'est pas jouer la montre parce que les Iraniens fabriquent de l'uranium enrichi. Quelles que soient les circonstances, ils n'ont pas besoin de sanctions ou de contre-sanctions. La machine tourne. Pendant que nous parlons, les Iraniens font de l'uranium enrichi. Ce n'est pas la question. On ne gagne pas du temps et les Iraniens ne gagnent pas du temps. Par contre, en Iran, le temps est court. Ahmadinejad sait très bien, et nous constatons aujourd'hui un an de la révolution iranienne verte. Il constate qu'il y a une pression politique forte. Il a réussi à contrôler cela, mais il sait très bien qu'il y a une pression forte. C'est aussi qu'il y a une opportunité aux États-Unis. Pendant 30 ans, les États-Unis disaient niette. Aujourd'hui, les États-Unis disent « je peux sortir de la crise ». Et donc même quelqu'un comme Ahmadinejad, qui n'est hélas ni meilleur ni pire que notre gouvernement iranien, et le prochain sera encore pire que lui, Ahmadinejad est contraint politiquement de faire quelques concessions. D'où le fait qu'il ait reproposé l'accord sur le réacteur nucléaire de Téhéran, refusé par lui dans un premier temps, et ensuite refusé par les Américains et les comités internationaux, il a reproposé cela avec l'aide des Turcs et des Brésiliens. Et c'est là un événement majeur que l'Iran actuellement est en train d'initier peut-être ce qu'est un nouveau tiers-monde ou une nouvelle politique des pays émergents, avec la Chine comme chef d'orchestre éventuellement derrière, avec de nouveaux pays qui veulent dire aujourd'hui « nous n'acceptons plus le monde tel qu'il a été créé après la Seconde Guerre mondiale ». Et là, l'Iran voudrait être un des leaders de ce domaine-là. Autrement dit, il y a une pression sur l'Iran et peut-être que les discussions d'ouverture sont peut-être aujourd'hui de nature à être acceptées par le gouvernement iranien, contraint et forcé de faire des concessions.
Donc, et le fait, juste d'un mot, vraiment d'un mot, que Moscou et Pékin aient voté cette résolution est important pour vous ? Change quelque chose ?
Non, ça ne change rien, dans la mesure où il faut bien que ces deux pays ne peuvent pas faire la guerre aux États-Unis. Et comme ils savent que ces sanctions sont vaines et n'ont pas d'autre intérêt que diplomatique et politique, ils sont prêts à voter cela. On sait que les Chinois et les Russes ont soutenu les Brésiliens et les Turcs dans leurs négociations. Et même, dit-on, Obama a soutenu cette politique parce qu'aux États-Unis, il y a la politique de Clinton et celle d'Obama.
Merci beaucoup, en tout cas, Bernard Hourcade, directeur de recherche au CNRS, géopolitique de l'Iran. Armand Collin, nous nous retrouvons demain, Marc.